Avec Vincent Després, tourné au milieu des cigales dans le sud de la France. Merci Raphaël Delvolvé.
Vous avez déjà pratiqué la campagne ?
Non.
Médecin de campagne, ça s'apprend pas.
CO2, mon amour.
C'est quoi ces canards ?
Quel canard ?
Là ! Là, vous avez pas vu ? Ils ont voulu m'attaquer, hein ?
Bah ça, c'est pas des canards, ça. C'est des jarres.
Avec Denis Chessou.
C'est le mal de loi. Oui, moi aussi, un jour, je me suis fait attaquer. 22 points de suture. La seule solution, faut les humilier.
C'est quoi les humilier ?
Faut les choper par le cou et puis leur mettre le bec dans le cul. Alors là, ça les humilie, et du coup, ils mouffent plus. Enfin, vraiment, le bec dans le trou du cul.
Sur France Inter.
Oui, celle-là, de temps en temps, on vous la passe et ça tombe bien car on va parler d'animaux. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir. C'était donc un extrait de Médecins de campagne avec aujourd'hui Sofiane Aktib à la technique et Camille Blanès nous assiste, bien sûr. Et Xavier Pestugia réalise l'émission. Petite humeur dont on se serait passé. Il s'agit du dieu Mars, le mois préféré des hommes, semble-t-il, puisqu'au bout de tant d'années, on peut se demander si l'être humain n'aura jamais su faire rien de mieux que la guerre. Alors oui, heureusement, la générosité, l'art, la science, l'empathie, la solidarité, l'amour existent chez l'humain, en dehors de nos vies canalisées par les algorithmes. Mais quand même juste se rappeler que depuis notre avènement sur Terre, nous avons eu peu de temps en paix. Il s'agit en fait de regarder notre histoire de France, celle du monde. Et là, on se rend bien compte effectivement un peu des dégâts. En mars, nous attendions les hirondelles. Et ce sont les missiles russes en escadrille qui passent, comme les cigognes, et explosent au milieu des bourgeons. Le soleil à peine chaud, encore en mitouflé d'hiver, et déjà l'odeur de la poudre, du sang, du nucléaire astiquant ses ogives. Les sales mouches de fer, de peur, de viande et d'acier ne pratiquent pas le tri sélectif dans les rues ukrainiennes du printemps à venir. Le souffle du diable et la folie guerrière impératrice d'un homme a fait fuir à 2000 km de Strasbourg les oiseaux, les enfants serrant leurs peluches contre leur cœur, la démocratie des urnes, les vies mais jamais l'espoir, même si la barbarie ne fait que commencer. Sur la terre comme au ciel, recommencent et se croisent les migrations. Alors les terrestres s'appellent exode de misère. À une époque, dans une novlangue parfaite, on nous parlait, souvenez-vous, de frappe chirurgicale, les mots du soin pour cibler la mort en frôlant les centrales nucléaires. Personne ne nous a servi, heureusement, les missiles développement durable, les charbiots, les balles recyclables. Impuissance consolatrice et fête de l'info en continu. Et c'est à ce moment, sur une petite plage médiatique, qu'atterrit la suite du rapport du GIEC, qui reste toujours coincé en travers du gosier. Un missile de plus qui touche tout le monde et déjà 3 milliards d'humains éparpillés au sud de la map monde. Il sera sorti à bas bruit au milieu de nos gabegies et je m'en foutude humaine. Le coup de « je te rase un pays en 10 jours parce que ma paranoïa de dictateur le demande » occulte ce travail des chercheurs. Les maxi-tempêtes, incendies de forêts géants du monde, raccrochent leur tablier de sapeurs-pompiers au râtelier. Alors on se dit, la température remonte, bah ouais, ça fait du bien sur les épaules et à la facture de gaz. Les premières fleurs de prunier, les chatons des noisetiers, le premier chant de la fauvette, oui, le printemps sera. Sur les prairies fleuries ou bien les champs de ruines, son retour est la seule certitude dans l'incertitude du monde. Regardez, deux brins d'herbe sauvage suffisent pour la métamorphose du papillon, les premiers sont de sortie, ils volent sur le monde des hommes et leur folie. Vinciane Després, donc une philosophe chez les bêtes, avec nous, donc dans le Gard, je l'ai rencontrée chez elle, habitée en oiseau, parlons des poulpes, vous allez voir, donc c'est très intéressant d'avoir ce regard décalé sur ce monde animal.
Feel like you're on your own. I guess you
Burning Fly de Rover, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Allez, maintenant, rencontre avec la chercheuse belge Vinciane Després. C'était chez elle, vous allez voir, il faisait chaud, c'était bon. Nous sommes dans le Gard.
Hier soir, j'étais prise dans la poésie d'une soirée orageuse, où l'orage se faisait attendre, on va dire, ou en tout cas se faisait espérer. Et on l'entendait gronder au loin, et c'est comme souvent ici, on l'entend gronder au loin, et on lui dit « passe par ici si tu veux bien », et puis on l'attend, on l'attend. En attendant, ça donnait quand même une qualité d'air très particulière, un peu lourd, un peu étouffé, et des chauves-souris qui probablement volaient bas, parce que les insectes devaient se trouver à bonne hauteur pour elles, enfin en tout cas à hauteur où on pouvait les voir. Mais c'était très beau parce que c'est dense. J'ai eu l'impression que les chauves-souris, ce que j'avais jamais réalisé, il y avait quelque chose de joyeux chez elles. Elles se poursuivaient. Ce que j'avais d'abord cru comme étant simplement un vol erratique, on s'est rendu compte que c'était un jeu, qu'il y avait véritablement un jeu. Ça aussi, on apprend. Donc, c'est à la fois des proximités et des grosses différences.
Elle est originaire d'Anderlecht, alors premier contact avec la nature quand elle est petite, jardin familial. Sa mère élevait des oies, des poules, une chienne, oui, mais ça, c'était pas suffisant. Eh ben non, Vinciane Després, donc cette philosophe, psychologue de formation, rencontre un jour des éthologues, et alors là, passion, révélation, elle oriente ses travaux vers la philosophie des sciences. Les oiseaux, les poulpes, les araignées saturées d'ondes la passionnent. Et sa chaîne Alba, hein, qu'elle a récupéré aussi dans un chenil, et ben nous accompagne au cours de ce reportage. La relation au non-humain, la pensée du vivant est au cœur de ses recherches. Il s'agit en fait aussi de décentrer notre regard, on va dire collectivement, pour affronter quand même la perspective d'un futur un petit peu dégradé. Et donc que chez elle, tout ne se réduit pas à la survie, à la reproduction, à la territorialité chez les animaux. Elle va nous en parler. Rendre visibles les richesses du vivant et leur histoire évolutionnaire, et surtout restituer une dignité aux animaux, ça c'est son affaire. Saura-t-on prendre soin d'autres que les humains? En attendant, on va reprendre langue avec les bêtes au cœur de la garrigue gardoise, remplie de cigales. Nous ne sommes pas loin du Zest, nous sommes à Sagriès.
Ici, vous entendez une source. Je vais vous le signaler en passant.
Ah ben si, c'est très important parce que quand même là...
Le vent qui souffle et qui se mêle. En fait, il y a deux sources ici qui sortent sous terre, qui sont un peu taries pour le moment parce que l'été devient long et sec.
C'est peut-être pas l'heure parce qu'il y a encore un peu de chaleur quand même. Pour les piafs et pour les oiseaux qui vous sont extrêmement chers.
Oui, c'est encore un peu tôt. Ce serait dans une heure et demie qu'on pourrait les entendre.
Quelles questions faudrait leur poser aux oiseaux?
Je veux dire, il y en a plein des questions à leur poser. Je veux dire, il y a des tas de gens qui leur posent. Alors, il y a les scientifiques, les ornithologues qui leur posent des questions de plus en plus passionnantes. Et notamment des questions de plus en plus orientées du côté de ce qu'on appelle la biosémiotique, c'est-à-dire... Le fait qu'on se rend compte progressivement que le chant des oiseaux était beaucoup plus significatif que de simples états d'âme, comme on le pensait auparavant. Donc il y a ces questions-là, puis il y a d'autres questions qui sont des questions passionnantes de savoir, mais tiens, mais comment est-ce qu'on va cohabiter? Comment est-ce qu'on va faire pour pas être trop envahissant? Comment est-ce qu'on va faire pour leur laisser de l'espace? Qu'est-ce qu'on va faire aussi pour arrêter d'empoisonner leurs sources d'alimentation, hein, les insectes et compagnie? Donc ça, c'est des questions qui se posent de plus en plus.
Pour ça, vous avez dit que les oiseaux se sont mis sous la protection du virus.
Ben, ils avaient, oui, je veux dire, c'était un bon moment pour eux, hein, pour certains, voilà, qui étaient, je veux dire, pour ces oiseaux notamment, qui étaient victimes d'un bruit permanent. Ça a été visiblement, on l'a entendu, les ornithologues ont pu même le mesurer, ah oui, à quel point les oiseaux ont chanté différemment une fois que les choses se sont un petit peu apaisées et calmées, et que les n'ont plus à se battre et à rivaliser avec le tornitruement ambiant. On va laisser Alba aller de son côté.
Ah d'accord, on laisse Alba sur le côté.
Si on reste là, on va aller à l'ombre. C'est pour ça qu'elle a choisi ce chemin.
Ben oui, c'est... Vous voyez, elle est plus futée que nous, là.
Mais il siffle bien, votre chien. C'est pas lui, c'est moi. Voilà 2 ans que j'essaye de lui apprendre à siffler, il ne veut rien savoir.
Il est peut-être muet.
Muet, Ferdinand? Ah, vous voulez rire. Il a une voix de tonnerre. Tu entends, Ferdinand? Voilà à quoi tu nous exposes avec ta feignantise. Alors fais un effort, petite vache.
Est-ce que ces oiseaux, lorsqu'ils chantent, on a toujours dit, depuis un certain temps, que c'était pour des questions de territoire. Ça peut être aussi pour des concours de chant?
Oui. Moi, après avoir lu les ornithologues sur le territoire, j'ai fini par penser que le territoire était un prétexte Pendant des années, la question des territoires a été observée ou théorisée dans une perspective qui est la perspective un peu dominante, dans la mesure où les oiseaux ne font que de l'utile, où tout ce qu'ils font, c'est pour arriver à se reproduire. Et donc que le territoire doit être envisagé comme un instrument mis au service de la reproduction, c'est-à-dire de détermination biologique finalement très minimaliste.
C'est presque un discours d'humain, hein, ça. Vous voyez, c'est un peu ce que les humains ont fait.
Mais c'est un peu aussi ce que la manière dont les économistes envisageaient l'homme économique, hein, comme un homme rationnel qui ne fait que essayer de maximaliser ses profits, diminuer ses pertes, etc. Sans penser du tout que les acteurs économiques, dans le réel, font des choses beaucoup plus fantasques, amusantes et peu rationnelles d'un point de vue du calcul. Et en fait, avec les oiseaux, ils étaient un peu aussi dans cette perspective qu'on appelle la perspective utilitariste, c'est-à-dire on ne fait que utile et utile à la reproduction et à la survie. Et puis, il y a quand même des ornithologues qui ont fini par mettre ça en doute en disant non, mais il y a beaucoup de choses qui ne collent pas bien au tableau. La première chose, c'est que les bagarres, il n'y a pas vraiment d'issue aux bagarres. Enfin, il n'y a pas de vainqueur, en fait. Même, c'est vrai qu'il y en a un qui fait demi-tour, mais... Il n'a rien perdu, en fait. Il a juste un peu perdu son temps. Et est-ce qu'il a même perdu son temps? Parce que finalement, est-ce que ça ne fait pas partie du jeu que d'aller embêter l'autre à ce qu'on appelait des frontières et qui deviendrait plutôt une périphérie? Et donc la question du territoire a été revisitée par des auteurs très, très intéressants dans les années 60 qui disaient, mais finalement, peut-être que le territoire, ce serait peut-être matière d'expression. Ça, je reprends une idée de Deleuze. Matière d'expression ou bien une idée de Souriau. C'est-à-dire, finalement, mais tous ces combats, ben, c'est peut-être pas... le meilleur combattant ou le plus fort qui l'emporte, mais le meilleur acteur, c'est peut-être des scénarios, c'est peut-être du jeu. On va passer par ce petit passage-là, je vais vous précéder.
Allez-y.
Il y a peut-être aussi une fonction du territoire qui est simplement, et qui n'est pas une vraie fonction, qui est plutôt un détournement de fonction, qui serait que les oiseaux, avoir un territoire pour eux, ça leur permet de chanter, de communiquer entre eux sur un mode particulier, de parader, de se mettre sur un promontoire pour montrer à quel point toutes les gammes qu'on a fait auparavant ont porté leurs fruits, de rencontrer des femelles, mais de rencontrer aussi d'autres mâles. Et donc le territoire serait devenu un prétexte. Je veux dire, il a toutes les fonctions qu'il peut avoir pour la survie, la reproduction, tout ce qu'on veut, mais il peut aussi être utilisé, détourné, parce que ça devient un prétexte à chanter, un prétexte à donner à voir.
Je ne vous ferai pas de mal. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous faire peur, mais j'ai eu de telles émotions. Que faites-vous quand tout va mal? Vous chantez.
Dans quel langage parlent les oiseaux?
Les oiseaux, c'est immense en fait, parce que vous avez une telle quantité d'espèces qui ont certaines caractéristiques communes et quantité de caractéristiques singulières. Alors si vous parlez des oiseaux chanteurs, ben là on est sûr qu'on ne peut pas se tromper. C'est le langage musical, c'est le langage des voix et du jeu sur la voix. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de bien dire, mais il s'agit aussi de faire du beau. Et c'est important pour les oiseaux de bien chanter. Non seulement de bien chanter, mais de faire passer clairement les choses qu'ils ont à dire. Alors quant aux autres, les non-chanteurs, il est fort possible que le mouvement soit quelque chose qui soit de l'ordre d'un langage. Même les corneilles, par exemple, ce qu'elles peuvent faire comme chorégraphie invraisemblable dans le ciel. Alors elles le font en parlant en plus. Ça, c'est assez impressionnant, c'est que les corneilles vont faire à la fois le mouvement et à la fois en ne cessant de dire des croix qui sont en plus inaudiblement distinguables pour nous, mais qui sont visiblement, pour certains ornithologues, ils commencent à dire « Ah non, mais quand elle fait traîner la dernière syllabe, ça signifie quelque chose d'autre que les autres occurrences. » Et ça, c'est assez impressionnant aussi. Donc, c'est de se dire « Il y a peut-être quelque chose qui nous échappe, nous, mais qui est de l'ordre du tracé du mouvement dans l'air. »
Est-ce que ce ne serait pas un message que nous envoient peut-être, pourquoi pas, les oiseaux aussi, comme les animaux aussi, peuvent nous envoyer des messages, peut-être avec leur crotte, ou je ne sais pas. Enfin...
Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment à nous qu'ils s'adressent. Je ne sais pas si on les intéresse tellement que ça.
Ouais.
Et de toute façon, je ne suis pas sûre qu'ils n'aient pas déjà bien saisi qu'on est un peu dur de la feuille à certains égards.
C'est pour,
je veux dire, que dans tous les registres où nous pourrions les comprendre, nous sommes quand même des très, très grands maladroits. Donc, j'ai des doutes sur le fait que les oiseaux puissent avoir confiance dans le fait que nous pourrions comprendre les messages qu'ils nous laissent. Mais peut-être sait-on, il y a peut-être quelques plus optimistes parmi les animaux qui se disent, allez, on essaye quand même. Regardez, il y a un œuf qui est tombé là.
Ah, voilà. La coquille est ouverte.
Est-ce que c'est un petit ou est-ce que c'est quelqu'un qui a mal terminé?
Ouais, de toute façon, en grande série,
il y a
de la casse dans les nids. Est-ce que c'est le vent? Est-ce qu'on peut aussi sortir un œuf eux-mêmes, hein, ça peut être jouable.
On va piquer par une autre boucle et on va revenir à notre point de départ par une autre boucle.
Très bien.
Alba, tu viens?
Parmi tous les singes de Michel Simon, l'un a particulièrement compté. Une guenon, morte il y a quelques années. Zaza.
Zaza était très gentille. Elle allait dans les arbres. Elle avait des amis, c'était les oiseaux. Elle assistait à la becquée, la mère nourrissant ses petits dans le nid. Elle restait toujours à un mètre du nid pour ne pas effaroucher la mère. Elle attrapait les mouches, mais elle n'en a jamais tué une seule. Zaza était respectueuse de la vie des autres. Et alors, je l'emmenais au cinéma. Elle allait au cinéma et chaque fois que mon image apparaissait à l'écran, elle applaudissait.
Quel est votre regard par rapport à ce rapport animal-humain?
J'ai lu dernièrement dans une interview de Mathieu Dupérex, le philosophe, quelque chose de très juste qu'il dit, c'est que il dit, on peut d'une part penser qu'on est dans ce qu'on appelle une crise de la sensibilité, mais qu'est-ce qu'on appelle une crise de la sensibilité? Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une crise où nous avons tellement manqué de sensibilité, nous sommes devenus tellement anesthésiés, que le fait de prêter attention autour de nous, d'avoir de la curiosité, etc., nous est devenu impossible? Est-ce que c'est ça une crise de la sensibilité? Ou bien est-ce qu'on parle de crise de la sensibilité au sens où nous nous rendons compte, en effet, que nous ne sommes plus très éveillés à autre chose que les humains, que nous sommes très bons pour nous débrouiller dans une ville, pour nous débrouiller avec un ascenseur, avec un métro, avec des gens sur les trottoirs, etc., mais incapables de faire quoi que ce soit une fois qu'on est en dehors des sites urbains? Est-ce que crise de la sensibilité voudrait signifier, nous nous rendons compte qu'en effet il y a une crise, c'est la prise de conscience qui ferait la crise, et donc qui demande un regain de sensibilité? Et Mathieu Dupérex disait quelque chose là-dessus en disant, mais attention, c'est pas que nous soyons insensibles, mais c'est que nos modes de sensibilité ne sont plus les mêmes. Et je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il disait. Il disait que, d'une certaine manière, en fait, tous les capteurs qu'on utilise pour essayer de... les capteurs de température, les capteurs de... même les ornithologues qui enregistrent les chants des oiseaux, les bénévoles qui vont compter, qui vont faire du recensement, les thermomètres qui prennent la température, etc. En fait, ce sont des capteurs de sensibilité. Et que donc, en fait, on n'est peut-être pas si peu sensible que ça, d'une certaine manière, mais je veux dire, ce sont des traductions. Voilà, ça veut dire qu'il faut les retraduire de telle sorte à vraiment bien les mesurer. Alors la question c'est, et quel type de réponse on peut maintenant inventer face à ça? Et c'est là où on se retrouve en se disant, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Enfin si, on sait, mais on n'est pas capable de le faire.
Nous allons continuer à décentrer notre regard, parce que c'est vrai qu'on va sûrement beaucoup trop vite dans l'analyse des mondes vivants, donc avec Vinciane Després, après cette jolie chanson.
Des chantiers, oh yeah. serpent. Et ma vie est à terre. Mon ventre est sur la pierre. Où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent. Et de muse en muse. De prairies en prairies. Perpétue mes hécatombes. D'ailleurs je mange les œufs de colombe. Cui, 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 cui. Cui, cui, cui. Si j'étais un oiseau. Cui, 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 cui. Cui, cui. Si j'étais un oiseau.
Bertrand Belin qui pose ses mots et ses plumes sur les notes de cuivre et de jazz de Laurent Dardenne.
CO2, mon amour.
Il s'appelle Coco, un nom typiquement italien. Je suis sûre qu'il vous aime déjà. Ah, les animaux ont un instinct qui ne les trompe pas. Ils s'attachent immédiatement à ceux qui les aiment.
Avec Denis Chessou.
Cannibal, bâchez mon zouk.
Sur France Inter.
Vampire.
Alors oui, on est un peu dans un autre état d'esprit avec Vinciane Després, donc notre philosophe, femme qui s'intéresse aux animaux depuis très longtemps, qui d'ailleurs fait aussi appel à la fiction hein, dans cet ouvrage Autobiographie donc d'un poulpe et autres récits d'anticipation, parce que la fiction, c'est l'autorisation peut-être de mieux respirer. Elle est très liée d'ailleurs aussi avec Alain Damasio, qui a quand même dans ce domaine une plume assez extraordinaire. Et donc on va poursuivre avec elle dans ce petit bout du Gard, donc cette balade. Elle et aussi Alba, qui est donc sa chienne, qui a une très belle couleur crème et qu'elle a trouvée dans un refuge qui recueille les chiens des rues.
Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre.
Tu vas dans l'eau, là, tu veux. Viens. Va dans l'eau.
Allez, hop.
Voilà. Allez.
Avec un peu d'imagination, je me dis, tiens, nous arrivons près d'une ancienne villa romaine.
Alba, viens, on va dans l'eau. Viens. Viens avec moi. On va dans l'eau.
Plouf, plouf, plouf. Et là, je suis très, très contente. Secoue-toi.
Viens, Alba, on va par ici. On va par là.
C'est-à-dire, ce qui vous caractérise, c'est la disponibilité au vivant. Au-delà de vouloir lui redonner une dignité, parce que ça manque en ce qui concerne les animaux. Mais vous êtes disponible.
Alors moi, je pense que ce que les éthologistes m'ont donné comme goût et comme joie, c'est de faire ce que les chrétiens faisaient, les naturalistes chrétiens faisaient avant que Darwin ne propose une autre manière de faire, oui. C'est-à-dire de s'émerveiller devant la créativité. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que les éthologistes font bien. C'est considérer que la vie, je vais le dire un peu avec mes mots, mais enfin, c'est pas mes mots du tout, c'est très bergsonien ce que je vais dire. Mais la vie, c'est une pulsion créatrice continue, imprévisible, difficilement contrôlable. Et ça, quand j'entendais ce que les éthologistes racontaient sur tel animal, la façon de faire, la manière d'être, la très grande diversité des manières d'être, parfois au sein de la même espèce, parfois au sein du même individu, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une espèce de jaillissement de créativité constant. Et ça, c'est ça, s'intéresser aux vivants.
Bien, en ma qualité de président, je déclare la séance ouverte. Prononçons d'abord le serment. Je suis un gentil requin, pas une machine à tuer. Si je veux arriver à changer cette image, je dois d'abord me changer moi-même. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus.
Sans passer celle des dauphins.
Les dauphins? Ouais, faut voir comment ils se la jouent, ceux-là.
Youhou, regardez-moi, comme je suis beau, comme je fais de jolis bons.
Le thème de cette séance était « J'invite un ami poisson ». Tout le monde a son poisson, j'aime bien.
Solidarité, compétition, donc selon les époques, le curseur allait dans un sens, allait dans un autre.
Alors ça c'est déjà un premier point, c'est d'ouvrir un peu ce problème-là. Je veux dire, le problème de solidarité et compétition, c'est qu'on met une charge morale dans ce débat, Ça veut dire qu'on, de nouveau, on est en train de remoraliser la nature, d'attendre de la nature qu'elle nous fasse des leçons de morale, qu'elle nous donne des exemples. Alors que parler de proto-coopération, on est simplement en train de parler d'organisations qui tiennent. Et qu'est-ce que c'est que la proto-coopération? Je vais donner l'exemple, à mon avis, qui est exemplaire de cette démoralisation. Quand un poisson, quel qu'il soit, ou un mammifère marin, meurt à la surface de l'océan, il favorise la vie de ceux qui sont au fond et qui n'auraient peu de possibilités de s'alimenter s'il n'y avait pas toutes ces morts. Et là, on est dans le cadre de la proto-coopération. Et une fois qu'on entre ça, en disant « tiens, les morts nourrissent les vivants », ce sont des formes de coopération, mais qui n'ont rien de moral. Les morts ne demandent pas à se sacrifier pour pouvoir nourrir les vivants, simplement. Quand un vautour dépèce un cadavre et permet que des parasites extrêmement dangereux ou des toxines extrêmement dangereuses soient, d'une certaine manière, éliminées, parce que les vautours sont des bons cul-de-sac, au point de vue là, le vautour n'est pas en train de dire « venez, je vais assainir l'humanité », etc. Ce sont des formes de proto-coopération absolument extraordinaires. Ça, c'est le premier point. Et puis, un deuxième point, moi, qui m'intéresse de plus en plus, c'est qu'on est de plus en plus en train d'étudier les relations interspécifiques qui avaient été relativement ignorées pour des raisons très différentes. D'abord parce que c'est compliqué à explorer. Ensuite, parce qu'on connaissait déjà tellement peu de choses sur les espèces, donc il fallait bien commencer quelque part. Mais depuis quelques années, de plus en plus, les chercheurs s'intéressent aux relations interspécifiques et voient qu'elles sont beaucoup plus complexes que ce qu'elles n'avaient apparu jusque-là. Donc il y a de la communication, il y a des tas d'êtres qui comptent sur d'autres espèces pour donner l'alerte, et c'est pas simplement une attente simplement passive où je vois que l'autre fait attention donc je dois faire attention. Non, non, il y a des modes de communication et des modes même où ils se comprennent, où ils apprennent, certains oiseaux vont utiliser un vocabulaire qui est celui d'autres espèces. Donc il y a des choses qui sont vraiment impressionnantes. Et puis je me suis dit, au moment où je me suis mis un peu à étudier les poulpes, quand on dit qu'une espèce n'est pas sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça témoigne en fait de cette habitude qu'on a prise de considérer que la socialité était toujours intraspécifique, qui dit quelque chose de nous aussi. Est-ce qu'avoir un chien, c'est... Est-ce que, si je vous disais, ce qui n'est pas vrai, hein, mais si je vous disais, vous savez, moi je vis toute seule depuis des années, je ne vois personne. En fait, je vis avec 3 chiens, et donc moi j'ai des relations sociales très très riches. Quantité de gens considéreraient que là, c'est pas vrai, non, au contraire, on dirait que c'est une asociale, celle-là, la preuve, elle s'entoure de chiens et elle veut pas les humains. Alors qu'en fait, ça fait une société, une humaine et un chien, ça fait déjà un début de société, et deux chiens aussi. Et en plus, une société qui va se compliquer du fait qu'il y a 2 chiens et une humaine, bref, tout ça, c'est très bien. Et donc, je me dis, c'est vraiment intéressant de sortir de cette espèce de préjugé selon lequel la socialité est une affaire purement intraspécifique, et de commencer à penser, mais tiens, mais quelles sont les modalités de la socialité interspécifique? Bon, mais notamment, il y a des alarmes, il y a des alertes, il y a des formes d'entente, et puis on découvre qu'il y a plein d'oiseaux qui vivent en colonies interspécifiques. Ce qu'on savait pour l'Amérique du Sud, on découvre que même en Europe, il y en a, alors qu'on disait non, les conditions écologiques ne favorisent pas ce genre de trucs. C'est trop coûteux. Et puis on s'est rendu compte que non seulement il y avait des groupes interspécifiques avec des mésanges, enfin bref, quantité d'oiseaux, mais quand même des chorales interspécifiques. Donc ça veut dire qu'en plus, non seulement on vit ensemble, mais on fabrique des trucs ensemble. Et en travaillant sur les poulpes, je me suis dit, mais dire qu'ils sont peu sociaux, c'est considérer d'entrée de jeu que les relations de proie et de prédateur ne sont en aucun cas des relations sociales. Alors je vais dire quelque chose d'abominable ici, peut-être, sauf que Jocelyne Porcher, je pense, ne penserait pas que c'est si abominable que ça.
Donc, chercheuse à l'INRAE, donc, et qui était vraiment une...
spécialiste de l'élevage. Voilà. On peut considérer quand même qu'un éleveur qui vit avec ses vaches, qui s'en occupe tous les jours, qui leur parle, comme les éleveurs qu'on avait rencontrés quand on avait fait une enquête ensemble...
Il y a une relation, là.
Ben, on a une relation, je veux dire, on a une société. Ouais, et on a des éleveurs qui ont des relations sociales extrêmement riches, ouais, avec leurs vaches, et qui sont capables de les comprendre et qui vont parfois les voir le soir en disant « j'ai un cadeau pour vous ». Bon, une fois qu'on dit ça, ben, qu'est-ce que je peux dire de mon poulpe? Ben, que les relations que les poulpes entretiennent avec les oursins, avec les crabes, avec les requins, etc. Pourquoi?
Je vais vous laisser passer, donc non pas 2 poulpes sur... c'était des poulpes, ils sont casqués.
Ils ont un casque. Le poulpe casqué, oui. Donc pourquoi ne pas considérer que ce que les poulpes ont comme relation, et qui sont des relations aussi qui sont terriblement transformatrices, parce que ce que les poulpes sont devenues, leur capacité de camouflage, elles s'adressent tant à ceux qu'elles doivent attraper, dont ils se nourrissent, que de ceux dont ils doivent craindre eux-mêmes d'être la proie. Ben finalement, ce sont des relations sociales, c'est-à-dire des relations où ben, on se poursuit, où on apprend à connaître l'autre, etc. Et que donc, pour sortir de cette histoire coopération-compétition, qui me semble trop binaire et surtout qui me semble trop connoté moralement. Pourquoi ne pas nuancer ce que les éthologistes font très bien, ce que les écologistes font très bien, etc. et commencer à penser dans des termes très nuancés de proto-coopération, en ce compris entre une proie et un prédateur, et des relations qui transforment les êtres de telle sorte à ce que, d'une certaine manière, ils continuent tout le temps à bouger, à changer, et ils ne sont pas les mêmes qu'il y a 1000 ans d'ici, ou qu'il y a parfois même une heure d'ici.
Ah, allez. Ah oui, Alba, de l'eau, pour les humains et pour les chiens. Hop. Moi j'en prends. Hein. C'est bien parce que ce sont les animaux qui nous ont appris à laper.
Oui, hein, c'est vrai, c'est ça. Alba, tu veux de l'eau? Oh, ben, on en a pris plein déjà, c'est vrai.
Je crois que c'est pas mal, la salouse, là, elle nous regarde.
L'oiseau du Colorado mange du miel et des gâteaux, du chocolat, des mandarines, des dragées, des nougatines, des framboises et des roux-toutous.
Le travail, c'est quand même de nous sortir de l'exceptionnalisme humain.
Oui, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait c'était ça mon travail, parce que je n'imaginais pas l'ampleur qu'avait encore l'exceptionnalisme humain à cette époque-là. Avec une espèce de naïveté désarmante, oui. J'imaginais que, allez, on était sortis de cet exceptionnalisme et que c'était quand même, c'était une affaire de quelques bastions d'arrière-garde. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, les philosophes en premier, parce que les philosophes sont restés particulièrement attachés à l'exceptionnalisme pendant assez longtemps, mais aussi les psychologues et aussi les anthropologues, je ne m'étais pas rendu compte que particulièrement dans le monde académique, il y avait une telle conviction que l'homme ne pouvait être qu'exceptionnel et que ce n'était pas du tout une conviction malhonnête. Mais regardez.
Encore un œuf.
Ouais, ouais, et c'est la même espèce, visiblement.
Ouais. Pigeon ou tourterelle, d'ailleurs. Vinciane Després, avant de se quitter, quel récit nous manque aujourd'hui?
Alors moi, les récits qui m'intéressent de plus en plus pour le moment, ce sont des récits qui mettent en scène des formes de vie collectives interspécifiques. Ne fût-ce que pour nous rendre la curiosité et le goût d'imaginer qu'on habite un monde ensemble et pas qu'il y a quelques propriétaires et les autres sont parfois persona grata ou parfois pas. C'est un récit politique en fait, un récit de manière juste de cohabiter, c'est-à-dire beaucoup moins colonisatrice et violente que celle qu'on a eue jusqu'à présent. Enfin pas nous, à nouveau, quelques-uns.
On a besoin de plein de Vinciane Després, puis plein de petits que vous avez sûrement aussi un peu formés. Donc, je vous remercie de tout cœur.
Merci à vous. Merci de l'université pour cette belle promenade en plus. Hein, parce que vous m'avez fait sortir alors que je m'apprêtais à rester terré sous la chaleur. Et puis j'ai découvert que le vent était là.
En fait, c'est Alba qui nous a sortis.
Est-ce que je vous offre un petit café avant votre départ?
Allez, on y va.
Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter.
Un battement d'ailes de soie, c'est très bien pour refermer donc cette émission. Vinciane Després, Habité en oiseau chez Actes Sud, ainsi que Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation, je le disais, dans la très bonne collection donc Monde Sauvage. Et puis elle est aussi l'invitée intellectuelle du Centre Pompidou, donc toute cette année. Et là, vous avez beaucoup d'éléments sur le site de CO2 Mon Amour. Vous retrouverez tout cela. Merci à Sofiane Aktib, à Camille Blanès, à Xavier Pestugia qui a réalisé, colorisé, sorti tous les petits sons de cette émission, Thierry Dupin, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour, et donc la semaine prochaine, ça va être une ode au coq, oui, mais attention, ça va être le coq de pêche du Limousin, et aussi le coq de Bruyère dans les Hautes-Pyrénées. Ouais, on prend un petit peu les chemins de traverse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un excellente fin de dimanche, et puis, vous en avez l'habitude, hein, le Twitter de Nichessou ainsi que Instagram, c'est tout à fait possible.
CO2 Mon Amour avec le WWF. Ensemble, préservons l'équilibre des forêts. Rendez-vous sur www.fr.